Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está escuchando Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hérault.
On mange dans mes livres. On m'a même fait le reproche qu'on boit trop dans le dernier roman. Et en même temps, il y a beaucoup de scènes de table et finalement, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un peu fondu dans le... Je ne sais pas, ce matin, j'ai passé trois quarts d'heure, peut-être un petit déjeuner irlandais formidable. Là-dessus, le français, on a des leçons à apprendre. Hein. Mais après, on va probablement manger pendant plus d'une heure ou deux, je crois que c'est prévu. Hein. Et puis, je sais qu'après, un des objectifs en dehors des débats, c'est le dîner ce soir. Enfin, il y a un moment, si vous voulez, quand on reçoit une feuille de route comme ça, c'est vrai que les mots qui ressortent, c'est toujours un peu déjeuner, dîner. Enfin, ça structure notre existence.
Et bien voilà, comme nous le suggère le romancier et fin gastronome Serge Joncourt, nous allons passer à table toute cette heure et tenter de nous régaler en butinant des mots d'écrivains qui vont en colloque comme on va en goguette. C'est l'ambition affichée pour cette seconde promenade dublinoise au sein de l'Alliance française. Ce sont nos hôtes de l'Alliance là-bas qui ont dressé la table, comme à notre habitude depuis le début de l'été, à cet horaire, sur votre grille d'inter bien mijotée. Ce sont eux qui, dans leur rôle de prescripteurs d'événements culturels de belle magnitude, nous ont invités au printemps dernier à participer à la 17e édition du Festival littéraire franco-irlandais.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Cette virée dans la capitale irlandaise, peut-être l'une des destinations les plus ouvertement francophiles de l'Europe, va être riche en goût et en saveur. Car cette année, Serge Joncourt en exergue vous l'a dévoilé à demi-mot, le thème de ses rencontres littéraires de haut vol était « les mots à la bouche ». Pendant trois jours, dans le cadre prestigieux du château de Dublin, et dans celui très convivial de la grande salle-restaurant transformée en auditorium du siège de l'Alliance française, au cœur de la ville, pendant ces trois jours d'un mois d'avril venteux et pluvieux, un panel d'une vingtaine d'écrivains français et irlandais ont débattu en face du public de la relation qu'ils entretiennent dans leur œuvre avec la nourriture. Il y a plusieurs façons, vous l'imaginez, d'aborder les liens épais et complexes que cet acte essentiel dans la vie de chaque jour, qui peut être une quête ou une fête, entretient avec la littérature. C'est cela qui est au menu aujourd'hui, avec en toile de fond, à l'aide des mots choisis sortis de la bouche de nos auteurs, un portrait de Dublin. Flashback.
5-4-3, ouverture du festival. Qu'est-ce qui est à l'affiche ce soir ?
Boire pour se souvenir.
D'Emmanuel Giraud, c'est ça ?
Exactement.
Ils sont en train de se préparer, là ?
Ils sont en train de se préparer, de se mettre dans l'ambiance festive et alcoolique, disons.
Je vais voir ce qui s'y passe, alors. Il est juste bientôt 18h30, c'est-à-dire qu'on attend là les premiers spectateurs. Et évidemment, c'est gratuit.
Oui, la plupart des événements culturels de l'Alliance française sont gratuits.
Ouh, on est en train de mettre la table. Emmanuel Giraud, qu'est-ce qui se prépare ici ?
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
C'est avec vous, par vous et en vous que vont s'ouvrir ces 17e rencontres littéraires franco-irlandaises. Quelle responsabilité !
Effectivement, on va beaucoup tire-bouchonner ce soir. Je vais présenter une version franco-irlandaise de « Boire pour me souvenir », une performance éthylique qui consiste à ouvrir une cinquantaine de bouteilles. Donc ouvrir ces bouteilles, les déguster et me rappeler une émotion, un désagrément, quelque chose de voluptueux, quelque chose de terriblement sonore, puisque aux bouteilles sont aussi associés des disques.
Oui, alors on est quand même dans ce qui... Quand je dis que ça ouvre ces 17e rencontres franco-irlandaises, ces 17e rencontres littéraires ici à Dublin, c'est que le thème cette année, c'est l'eau à la bouche. Donc c'est évidemment la manière dont la littérature peut s'emparer de la nourriture, de la gastronomie, de cette thématique invraisemblable qui envahit tous les champs et tous les possibles. Manger, boire.
Manger et boire, effectivement.
Et surtout boire, si je comprends bien.
Ce soir, il est question de boire. Mais demain, dès demain, les débats évolueront vers le solide, avec une pléiade de rencontres, de discussions, de performances également.
Ça fait du bien d'être à Dublin ?
C'est très agréable. On y boit très bien.
On se réfugie ici à l'Alliance française, dans cette salle qui est aussi la salle du restaurant. Vous avez remarqué la cocotte pour se protéger de la pluie cette saison, comme on se réfugierait finalement dans les pubs, puisque tout s'orchestre, la geste sociale, à travers évidemment aussi le breuvage, l'alcool.
Alors ce soir, il y aura quelques bières locales, puisque je me suis imbibé de l'atmosphère duplinoise hier soir à la quête de quelques produits locaux pour intégrer dans mon texte. Donc j'ai rédigé ça ce matin et parmi mes souvenirs, il y en aura des très très frais d'ivresse nocturne datant d'hier.
Bon, on vous laisse préparer tout le reste.
Dublin may be busy by day, but it's at night that it really gets going. Whether it's a great night at the theatre, a meal in one of Dublin's hundreds of restaurants, a few pints and a bit of crack, or to dance the night away, Dublin is the place to...
Philippe Milloux, je ne savais pas qu'un directeur de l'Alliance française faisait aussi éclairagiste, comme il s'occupait de la sono. Enfin, ça élargit le panel de la mission.
C'est de l'homme orchestre, tu vois. Là, je suis en train de finir le montage et technique sono et éclairage pour le spectacle de ce soir. Donc, personne ne le sait, mais un directeur d'Alliance, ça fait absolument tout.
Mais alors, la vérité, c'est que ça orchestre aussi des événements comme ces rencontres littéraires ici à Dublin. Ce sont les 17e rencontres franco-irlandaises. Donc ça veut dire qu'en plus d'être éclairagiste, vous devez être comme un n'importe quel, opérateur de spectacle, un peu inquiet, savoir qui va venir, qui va fréquenter le lieu, si tout ça va fonctionner comme il faut.
Alors j'ai une équipe, hein. on va pas se faire mousser davantage, Alexandre. Non, j'ai une super équipe derrière moi, avec des gens qui sont ici en place depuis longtemps et puis qui connaissent bien leur métier. Et voilà, donc on a nos réseaux, le métier on le connaît bien, et puis l'Alliance elle existe depuis 1960 ici. Donc voilà, on part quand même sur des terrains acquis. Cela dit, chaque spectacle à chaque fois, c'est voilà, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le son sera là? Est-ce que surtout le comédien sera heureux de la place qu'on lui a laissée? Et surtout, bien sûr, est-ce que le public aura envie de revenir, parce que c'est tout est là, revenir.
Et puis, en ayant décidé d'ouvrir avec ces 17e rencontres franco-irlandaises littéraires avec Emmanuel Giraud, vous ne savez pas tout à fait quelle sera la fin du délire programmé.
Oh, ça, on peut pas, mais est-ce que c'est pas finalement le but du jeu, de pas trop savoir où on va surprendre, aller sortir un petit peu en dehors des sentiers battus et puis étonner notre public à chaque fois?
Bon, je vous laisse régler ce projecteur qui a l'air d'être un peu défaillant, mais ma foi.
Je me souviens du pantalon de cuir noir que vous portiez le soir où nous dégustâmes une petite robe 2011 de Jean-Yves Perron. L'astringence majestueuse du vin blanc contrastait à merveille avec le velouté de la pausserie. Je me souviens de votre dégoût pour le muscadet, dont le nom vous évoquait avec terreur celui de Jean Le Canuet. Seule une dégustation à l'aveugle permit de vous faire apprécier la minéralité cinglante de l'amphibolite nature de Joseph Landron. Je me souviens de ce passage de Pérec que vous aviez surligné au marqueur rose. Plus que tout au monde, vous désiriez déguster un Fernet Branca à la terrasse d'un café de la place Saint-Sulpice. L'amertume médicamenteuse de la liqueur vous a un instant fait douter du bon goût de votre auteur préféré. Je me souviens de la saveur érotique de ces coraux d'oursin gobés à même le pouce du pêcheur dans une calanque inaccessible de Pianna. Sur la barque, langueur et suavité du Patrimonio Blanc 2012 de Nicolas Mariotti Bindi. Je me souviens de la fébrilité gluante qui investit nos doigts au moment où nous retirâmes l'épaisse couche de moisissure des bouteilles qui croupissaient dans cette cave emmurée. La Romanée Conti 1935, hélas, n'avait plus qu'un léger goût de vase. Je me souviens du silence et de votre sobriété souveraine, avalant les kilomètres de nuit sur la route des Pays de Loire, accompagné par le tricotage méticuleux des suites françaises de Bach, tandis que, passager sans permis, je détricotais tout aussi méticuleusement le vin de bagnole de Pascal Simonotti. Ce Pinot de Nice n'était pas seulement punk, il avait la rigueur et la folie de Glenn Gould.
Christine Weld.
Il va bientôt être l'heure pour tous ces écrivains rassemblés de passer à table.
Encore 10 minutes, un quart d'heure.
L'expression est bien choisie, non ? Passer à table.
Oui, c'est bien vu.
Ça fait 17 ans que ça dure.
Ça fait 17 ans que ça dure. C'est la 17e édition, effectivement.
C'est plus qu'une histoire d'amour.
Ah bah c'est, oui, c'est une grande histoire d'amour.
Et ça représente quoi, d'ailleurs, quand on y travaille comme ça, vous en charge de la communication à l'Alliance française ?
Des mois de travail.
Des mois de travail, oui.
Ça représente beaucoup de contacts avec beaucoup de gens, très sympa. Ça représente beaucoup de choses techniques aussi. Ça représente, voilà, grosso modo, c'est ça.
Et ça signe un peu une identité pour l'Alliance française.
Ça signe complètement une identité pour l'Alliance française parce que c'est, je peux dire, l'événement littéraire avec deux nationalités le plus important de Dublin. Voilà. Dans la ville du livre. Ça nous permet de faire rayonner aussi la France, qui est très important. C'est notre mission.
Alors comment se passe l'alchimie, s'il fallait parler presque en termes culinaires pour un festival comme celui-ci ?
L'alchimie entre les écrivains ? Bah écoutez, je vous dirai ça demain soir. Parce que je ne peux pas vous dire maintenant, on va voir, on va y assister maintenant, on va commencer.
L'idée, c'est de saupoudrer ces tables-là, à la fois des plumes venues du pays, venues d'ici d'Irlande, et puis évidemment, ayant traversé la Manche.
Voilà, puis l'idée, c'est surtout d'essayer de créer des connexions entre les deux nationalités, entre les écrivains irlandais et français, d'essayer de créer aussi des liens avec les éditeurs, parce qu'on va avoir des éditeurs irlandais. Et d'essayer de faire traduire des livres français en anglais et inversement. Voilà. Vraiment, on essaye de créer une connexion.
Quelques noms de ceux que vous avez réussi à faire venir ici, non pas peu fiers que vous êtes.
Oh là là, on a eu des gens comme Le Clésio, Makin, Jean-Pierre Kaufmann. Là, je vous donne des noms importants dans les années précédentes, mais on essaye chaque année de mixer des noms un peu plus connus et aussi de booster des écrivains qui ne sont pas connus et on essayait justement de les faire d'essayer de les faire rayonner à l'étranger.
Et là j'ai vu en train de prendre son café dans la salle avant que justement il et elle passent à table, Noël Châtelet,
oui.
Serge Joncourt est pas loin.
Voilà, exactement. Elle va nous parler de sa passion pour la nourriture. C'est un gros gourmand.
Lui, le fils de restaurateur.
Voilà, exactement. Il adore manger, il mange toute la journée. Donc il va nous raconter ça.
And you're going to meet our three French writers. So to your right, you have Serge Joncourt. Vous avez pratiqué différents métiers avant de vous lancer dans l'écriture. Alors on peut lire que vous avez travaillé dans la publicité, vous avez été maître nageur aussi. Votre premier roman vu est sorti en 98 au Dilettante. Vous avez obtenu le prix France Télévisions en 2003 pour UV, qui a été adapté au cinéma en 2007 sous le même titre UV. Vous avez reçu le prix de l'humour noir Xavier Forneret pour votre livre L'Idole, c'était en 2005. Et vous avez aussi travaillé des scénarios de films, donc bien entendu il y a Elle s'appelait Sarah avec Kristin Scott Thomas. Et il se classe cinquième des films français de tous les temps sortis aux États-Unis. Et un autre de vos romans, L'Idole, fait en 2012 l'objet d'une adaptation cinématographique réalisée par Gianoli, Xavier Gianoli.
Je n'arrive pas à m'empêcher de penser à ma fille à la place d'un de ses enfants. I think you should know the whole story.
No, I don't want to know.
Je suis là pour essayer de vous aider.
Ça commence à me foutre les jetons, tout ça. Vous avez vu les images sur Internet, là, tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes, qu'est-ce qui se passe, c'est ça, truc de fou.
Attends, calmez-vous.
J'en ai assez, je veux qu'on m'oublie, vous comprenez ça, je veux qu'on m'oublie.
Alors, Serge Joncourt, ce petit déjeuner irlandais, il avait quelle saveur ?
Le petit déjeuner irlandais avait une saveur salée sucrée. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours un peu une réticence à le faire, hein. C'est vrai. Mais finalement, ça se passe bien entre le cheddar et la marmelade d'orange. Ouais, c'était pas mal. Hein.
Le goût de Dublin ? C'est lequel pour vous ?
Le goût de Dublin, c'est une, je dirais, chaud, froid, salé, sucré. Quoi. Je veux dire, ouais, en 10 minutes, on peut passer d'une torpeur de grisaille et de bruit à une sorte de, comme là, parce qu'il fait soleil d'un seul coup.
L'odeur de Dublin ?
L'odeur, mais je ne l'ai pas encore, là, l'odeur. En même temps, en étant arrivé...
La patate frite un peu partout, qui oui. S'invite, même le matin.
J'ai eu un peu celle du fish and chips. qui n'est pas désagréable, une sorte de friture un peu convocante, ce qui n'est pas toujours le cas des fritures. Quoi, ça peut... Celle-là, non. Elle a... Et puis, y a... on n'est pas loin de la mer, hein, je vous ne l'apprends pas. Vous entendez? Il suffit que j'en parle. Donc, tout ça, ça... Oui, il y a de l'églophane, il y a du haddock aussi là-dedans. Il ne faut pas négliger le haddock. Parce que là, je vous sens partir vers du gras, de la friture et du... Non, on peut aller aussi vers le haddock. C'est mer et terre, quoi. Ouais, on est dans cette ambivalence-là, ouais. C'est un peu le mot qui viendrait, quoi. C'est...
Terre d'écrivain aussi, l'odeur du livre, alors, forcément.
Oui, chaque livre a son odeur. Enfin, c'est un réflexe que j'ai un peu, qui est... Je ne sais pas s'il est naturel, mais enfin, de renifler un livre, ça me semble assez légitime. Enfin, en tout cas, ça, c'est un geste qui me vient, quoi. Mais ça vient probablement aussi des vieux livres. Chez ma grand-mère, il y avait une sorte, il y avait un château qui était abandonné, puis personne n'y allait. Mais nous, au môme, on allait piquer des livres, et en particulier toute la collection des revues des Vieux Mondes. Il y a une odeur, qui me reste comme une forme de madeleine, quoi. C'est de l'odeur de ces livres, de ce papier à la fois humide et imprégné de feu de bois et de... Il y avait de l'usure aussi là-dedans. Il y avait... Ça devenait un peu végétal, quoi. Il y a comme un retour des choses, quoi. Enfin, bon, c'est... ouvrir un livre, c'est un peu comme prendre un bol d'air en pleine forêt. C'est le premier geste qui vient quand on sort comme ça. Ou même quand on va au bord de la mer, quoi. C'est d'aspirer à grands coups, quoi. Ça, c'est... Je recherche toujours un peu ça, quoi. Donc un livre, ça passe aussi par l'odeur, oui. Même un livre neuf.
Et puis, vous n'hésitiez pas à préciser, Serge Joncourt, dans cette rencontre littéraire qui ouvre cette 17e édition ici de ce festival franco-irlandais de littérature et qui est consacré au rapport que peut entretenir la littérature avec les nourritures terrestres ou la nourriture, tout simplement. Serge Joncourt, vous n'hésitez pas à dire que celle-ci ponctuer toutes les journées de l'écrivain que vous êtes ici en colloque, ça passe par le petit déjeuner, par le déjeuner forcément, par ce soir le dîner, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inévitable.
Ce qui est sûr, c'est quand on prend ce risque-là de ne faire qu'écrire d'une certaine façon, et d'essayer d'en vivre même. Ce qui me restructure, ce qui me resocialise, c'est effectivement les heures de repas des autres. Enfin, je veux dire, c'est un peu là où je reconnecte avec le monde, quoi. Et le déjeuner. Et puis même si je déjeune tout seul, il y a un moment, il y a comme un besoin vers les midi et demi, 13h, de se reconnecter à l'ordre des choses. Et puis le soir, vers 19-20h, de la même façon. C'est une sorte de... Moi, mon repas, c'est, même quand je mange seul, j'ai l'impression d'être le convive de toute cette ville qui m'entoure, quoi, vous voyez, parce qu'on mange tous en même temps, quelque part. C'est formidable, ça. On ne fait pas tous l'amour en même temps, si vous voulez. Hein. Il y en a qui composent, il y en a qui font ça le matin au travail, il y en a qui, bon, même tard la nuit, paraît-il, on me l'a dit. Alors que manger, c'est à peu près la même... c'est une préoccupation qui nous gagne tous au même moment. C'est la vraie fraternité, elle s'exprime là, quoi. Quand on passe à table, hein. D'ailleurs, quelle heure est-il? Dites, il est midi et demi. On va peut-être y aller, non?
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
Afro Bell. Cervantes. Okay. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding, Lawrence Stern,
hello.
Mary Wollstonecraft,
Vindicated.
Jane Austen,
here I am.
Sir Walter Scott,
Rondo.
Leo Tolstoy,
yes.
Honoré de Balzac,
oui.
Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte.
Hello?
Emily Bronte.
Hello?
Anne Bronte.
Hello?
Nikolai Gogol.
Best cheese.
Gustave Flaubert. Oui. William Makepeace Thackeray.
Call me William Makepeace Thackeray.
Nathaniel Hawthorne.
The letter A.
Herman Melville.
Ahoy there.
Charles Dickens.
London is so beautiful. Come up here.
Anthony Trollope.
Good evening.
Dostoevsky.
Here comes the
Mark Twain.
But I can't even spell Mississippi.
George Eliot. Emile Zola. Henry James. Howells Warren. Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton.
Hello, Mr. James.
D. H. Lawrence. E. M. Forster.
Happy the man and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today.
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je me souviens plus.
F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway.
As puppet.
Herman Hesse.
Poets. So poets.
Evelyn Waugh. William Faulkner.
You can eat William Faulkner.
Anaïs Nin. Ford.
Any color as long as it's black.
Jean-Paul Sartre.
Let's go, don't Simone.
Simone de Beauvoir. Albert Camus.
Beach. Beach.
Franz Kafka.
What do you want from me?
Thomas Mann. Graham Greene.
Give me Pinky.
Jack Kerouac.
Can't break it down.
William S. Burroughs. Lesson. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William.
L'émission s'appelle Terre d'Alliance. The channel, it's France Inter.
Vous écoutez Terre d'Alliance.
Un voyage planétaire
qui vous arrive de Dublin
au sein des Alliances françaises
avec Alexandre Héron. Non.
Yeah, wonderful.
On sort de cette conférence qui est donnée dans ce cadre prestigieux, Michael Cronin, que vous animiez. On est là au castle, enfin au château de Dublin, qui est visité par une meute de tourisme dehors. Et c'est l'heure de déjeuner. Alors, je ne sais pas si cette heure-là, puisque ça a été aussi central dans vos conversations avec les écrivains, dont Noël Châtelet, je ne sais pas si cette heure ou si cette pause déjeuner correspond à la même chose pour les deux cultures. Vous qui êtes professeur, puis traducteur, écrivain, là-dessus, vous avez des termes qui nous permettent de saisir tout ce qui nous, peut-être, relie ou différencie.
Bah, je crois qu'en fait, en ce qui concerne la nourriture, il faut surtout parler de différence. Disons que la nourriture qui occupe une place centrale dans la culture française, je dirais que dans la culture hollandaise, sa place est beaucoup plus marginale. Parce qu'en fait, le lieu de sociabilité, disons, dans la culture hollandaise, c'est plutôt le pub. Hein. C'est-à-dire que bon, on mange parce qu'il faut bien manger.
Mais on boit.
Oui, mais surtout, on boit. C'est-à-dire que la rencontre entre des amis, le vrai lieu de convivialité, c'est plutôt le pub que le restaurant ou le café. Alors, c'est en train de changer avec l'évolution de la société, mais je dirais que au fond, le lieu de convivialité, ça reste comme toujours le pub plutôt que, disons, autour de la table, le restaurant.
Avec ces écrivains qui passent à table, avec cette conférence-là que vous venez de finir d'animer, puisque vous étiez le modérateur, Michael Crelin, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une sorte, non pas de, bah, peut-être on peut le dire comme ça, de complexe encore aujourd'hui, pas d'infériorité, mais disons qu'on se fait petit par rapport à ce que peut représenter la gastronomie française.
Oui, parce qu'en fait, c'était pendant des années et des années, c'était la cuisine de référence. C'est-à-dire qu'ici en Irlande, quand on allait sortir pour fêter quelque chose, un anniversaire, un diplôme. Si on allait dans un bon restaurant, c'était forcément un restaurant français. Donc c'était donc la cuisine française, c'était la cuisine de référence.
Et même la ménagère, souvent irlandaise, a toujours du mal à dire autre chose que cette phrase-là. Vous en prendrez bien un morceau, un petit peu.
Oui, une sorte de modestie ou d'humilité vis-à-vis de la nourriture. C'est peut-être lié aussi au fait qu'il y avait ce grand traumatisme au 19e siècle, qui était la grande famine, où, bon, je permets de vous rappeler, le pays a perdu la moitié de la population, hein, de par la famine, par les maladies qui résultaient de la faim, et puis l'émigration, hein, qui était...
Donc, cette fameuse crise de la pomme de terre.
Oui, voilà. Donc... Quand on pense nourriture, disons dans la mémoire irlandaise, où on pense très souvent à l'absence de la nourriture plutôt que à la présence de la nourriture. Donc, je dirais que quelque part dans l'inconscient irlandais, il y a ce rapport un petit peu problématique avec la nourriture, la cuisine. Hein. C'est pas un rapport simple.
Ce qui est étonnant, c'est quand on arrive ici dans votre ville, Michael Cronin, à Dublin, la première chose, vous allez me dire que c'est peut-être vrai aussi du côté de la grande île, de la Grande-Bretagne, mais la première chose qu'on sent, le goût de Dublin, c'est celui de la patate frite.
Oui.
Partout.
Bah, disons, ça, c'est sûr que... Il y avait la présence de la patate dans la nourriture irlandaise, bon, depuis que c'est arrivé du Mexique au XVIe siècle. Alors, pour les Irlandais, c'était une nourriture miracle, parce que c'était, on pouvait en manger beaucoup. Il y avait beaucoup de vitamines dans cette pomme de terre. Donc, il y avait beaucoup de voyageurs qui venaient au XIXe siècle qui trouvaient que les Irlandais, ils avaient quand même une fière allure. Hein.
Ça ne nous rapproche pas de l'idée qu'on peut se faire de la gastronomie, de
cette manière. Non, justement, c'est plutôt, ça nous éloigne, et puis ça aussi, ça crée un grand problème de santé publique, parce qu'on commence à avoir des problèmes d'obésité, tu vois. C'était pas le cas auparavant. Hein.
Pas bête cette idée de cette thématique cette année, de parler de la nourriture et de sa relation avec l'écriture, avec le roman surtout. Cette nourriture-là permet de saisir l'âme, tout simplement.
Tout à fait. Et puis, ce qui est très frappant, par exemple, dans le grand livre de Joyce, l'écrivain dublinois, né
incontournable,
incontournable à Dublin. Mais quand on lit Ulysse, il y a beaucoup, beaucoup d'évocations de nourriture, de manger. Hein. Donc, pour Joyce, il voulait offrir un portrait de sa ville, non seulement à travers des expressions, des mots, des descriptions physiques des bâtiments, mais c'était aussi à travers le goût, à travers les plats, à travers les choses que ces personnages consommaient. Hein. Donc c'était un peu une sorte de portrait gustatif de cette ville.
Cette ville déclarée ville des livres par l'UNESCO, je crois que c'était en 2010, cette City of Books, où on entretient un culte incroyable. 100 ans plus tard, effectivement à Joyce, surtout à ce livre Ulysse, qui est lu, je crois, chaque jour que Dieu fait, dans un petit repère qui s'appelle chez Sweeney, on m'a parlé de ça.
Voilà, tout à fait.
C'est un lieu un peu hors du temps, non ?
Oui, tout à fait. C'est un lieu très, très insolite. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est cette passion, l'engouement comme mes compatriotes pour les mots, pour le langage. Hein. C'est des gens qui n'arrêtent jamais de parler.
Sauf quand il faut aller manger.
Sauf quand il faut aller manger. Effectivement, alors ça c'est différent. Hein.
Bon, on rentre chez Max alors, et puis après on ira faire un tour chez Sweeney. Ça m'intéresse aussi. Allez, donc la terrasse, malgré le froid, est entièrement bondée. Là. Ça
oui,
ne désemplit pas.
Monde, oui, bah, c'est samedi, donc hein, on a faim.
They're red, they're white, they're brown. They get that way underground. There can't be much to do So now they have blue ones too. We don't care what they look like, we'll eat them any way they can fit on our plate. Every way we can conjure to heat them, we're delighted and think they're just great.
Potato, 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 potato.
Quelques encablures, Philippe Mioud, de l'Alliance française, de votre antre, une autre antre, mais quelque chose d'assez particulier finalement. Parce que là, si on n'arrête pas dans cette ville de chevaucher sur les brumes du passé parfois, on est dans quelque chose de très entretenu qui est de l'ordre du culte. La boutique s'appelle comment ?
On est chez Sweeney, une pharmacie qui est quasiment dans son jus depuis 1920. Et qui est le temple de Monsieur James Joyce, rien d'autre.
Rien d'autre. C'est-à-dire qu'ici, le mythe littéraire est entretenu, et non seulement, comme tout bon mythe, il faut le rendre vivant. Et pour le rendre vivant, il faut que des gens qui l'incarnent. Et comment mieux pour l'incarner que de lire, que de rentrer dans l'ouvrage ? Ils ont réussi une alchimie qui est étonnante. Et quand je dis « ils », c'est qu'ils sont plusieurs, mais qu'il y a le propriétaire, P.J. Murphy, qui officie ici. Curieux personnage, non ?
Avec, oui, toute une bande de bénévoles, ils font ça sur leur temps libre et ils font vivre donc Joyce en français, mais aussi en italien et aussi, bien sûr, en anglais, sur des moments comme ça, des rotations sur la semaine. Donc on va rentrer et on va écouter un peu ce qu'il s'y fait.
Oui. D'ailleurs, je vois qu'il y a marqué pour le chaland qu'il y a des lectures d'Ulysse en français chaque samedi à partir de 6h30 le soir. Et il y a la figure de Joyce qui nous attend et on rentre.
Nous allons vous présenter aujourd'hui l'Ulysse du grand écrivain irlandais James Joyce. Ouvrage extraordinaire, inventaire exhaustif de tous les faits, gestes, pensées, de toute la vie consciente et inconsciente, pendant une journée comme toutes les autres, d'un petit bourgeois de Dublin, Leopold Bloom. De Leopold Bloom, Joyce, avec un réalisme franc et un symbolisme complexe, s'est attaché à retracer les pérégrinations à travers sa ville natale, à la manière des voyages d'Ulysse à la recherche d'Ithaque, depuis le réveil de son fils Télémaque dans l'histoire Stephen Dedalus, jusqu'à l'heure tardive où il va rejoindre dans son lit une somnolente Pénélope.
Evelyn. She sat at a window watching the evening invade the avenue. Her head was leaned against the window curtains and in her nostrils was the odor of dusty Scranton. She was tired. Few people passed. The man out of the last house passed on his way home.
Oh, Ronoko, what's your trouble? Is that the great Finn leader himself in his joy kimono on his statue riding the high horse there for Hengist? Father of authors. Is himself. Yon there, is it that on Fanarine Common, you're thinking of asking his
answer? Le sentir, c'est déjà presque guérir comme avec la sonnette du dentiste. Docteur Crackboom ferait bien de se soigner un peu lui-même. Électuaire ou émulsion. Le premier qui accueillit une plante pour se soigner ne manquait pas de couilles. Les simples, faut faire gaffe. Assez de Camelot ici pour vous chloroformer.
C'est pas du tout évident, hein, l'exercice que Jack Walsh vous demande de faire là en public dans sa pharmacie librairie.
Ouais, non, c'était un texte un peu compliqué en plus.
Ah bah Ulysse, il faut se le faire. Hein.
Oui, exactement.
C'est la première fois que vous l'ouvrez.
Ah oui, c'est la première fois que je l'ouvre. Ouais,
il y en a beaucoup qui ont besoin de plusieurs fois avant que...
D'accord, mais ça m'assure.
Mais c'est un monument.
D'accord, oui, je connais quand même de nom.
Mais vous êtes absolument... C'est à la limite du tortionnaire de faire pénétrer, comme ça, par la lecture, pour la première fois, quelqu'un, une œuvre aussi dense, aussi compliquée...
Mais c'est pas dense du tout, en fait. C'est très facile. C'est le plus facile livre à lire en tout le monde. Et c'est le plus lu, je pense, en tout le monde aussi. Hein.
Ah oui, plus lu que la Bible, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour vous,
c'est la Bible. C'est notre Bible, en fait.
C'est votre Bible. Mais comment vous expliquez qui est cette religion,
cette alchimie particulière qu'elle fonctionne encore 100 ans plus tard.
Oui, parce que Joyce, elle est née dans une famille assez aisée. Et puis, comme beaucoup de monde, son père a perdu tout de son argent. Et puis, il s'est trouvé dans un endroit avec les gens très pauvres à Dublin. Et puis, pour ça, quand il parle à quelqu'un, il demande, il écoute, il est un écouteur. Et il décrit dans une façon différente de toutes les autres écrivains comme les gens sont. Et quand il a terminé le livre Ulysse, il a donné le premier exemplaire à le concierge qu'il aimait beaucoup. Et il a disait hey, c'est pour vous, pas pour les académiques, pas pour les gens qui vous trouvez quelque chose qui n'est pas là. C'est un livre pour les gens qui se promènent n'importe où, surtout à Dublin. Et puis, c'était à cause de ça que je pense que Ulysse et toutes ses autres œuvres est lu dans tous les mondes et beaucoup de traductions en toutes les langues, et surtout en français.
On continue la liturgie.
Oui, parfait. We go back to Dubliners.
Tim Finnegan lived in Walking Street, a gentleman Irish mighty odd. He had a brogue both rich and sweet, and to rise in the world he carried a hod. But Tim had a bit of a tippler's way, but a love of the liquor he was born, and to send him on his way each day, he'd love with a crater every morn. Whack for the devil, you dance to your partners around the floor with your trotter shake. Isn't it the truth? They tell you lots of fun at Finnegan's wake. One morning Tim was rather full, his old head felt heavy which made him shake. He fell off the ladder and he broke his skull, and they carried him home, his corpse to wake. Oh, they wrapped him up in a nice clean sheet, and they laid him out upon the bed, with a bottle of whiskey at his feet and a bottle of porter at his head. Whack for the devil, when you don't see your partners around the floor with your fellow shake. Isn't it the truth? They tell you lots of fun at Finnegan's wake. How would your old one be bald?
Noël Châtelet, qu'est-ce qui se prépare là à l'heure du goûter ici?
Oh là 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 là,
sous les gouttes de ce château.
À l'heure du sucre. Bon, il se prépare des choses un peu inédites, je dois dire.
Oui, alors.
Une expérience. J'avais fait pour un livre de photos de Français à table, dans un album qui s'intitulait À table, évidemment, quelques petits textes comme ça pour animer les photos, des sortes de petites nouvelles qui accompagnaient une trentaine de ces photographies. Et j'ai eu envie comme ça de les présenter, à la fois les photos et les textes. Et puis une autre envie qui m'est venue d'y associer à cette lecture une amie saxophoniste, une grande saxophoniste de jazz qui s'appelle Géraldine Laurent, dont on entend beaucoup parler en ce moment.
Et pour cause. Elle vient d'avoir d'ailleurs cette année le prix de l'Académie Charles Cros. Elle est là, très concentrée d'ailleurs, à vos côtés, Géraldine.
Oui, elle fait semblant,
parce que
sa concentration est surtout une forme de déconcentration. C'est comme ça qu'elle joue le mieux. Voilà. Donc on lance ces trois voix, si je puis dire, trois voix dont une est sans X, des photos, les lectures de quelques photos, accompagnées au saxophone par Géraldine Laurent.
Donc là, le public est réuni ici. D'ailleurs, c'est un festival, ces rencontres littéraires franco-irlandaises que vous honorez pour la troisième fois de votre présence.
Oui,
ça veut dire
oui.
Qu'il y a entre vous et aussi l'Alliance française quelque chose qui se tisse.
Oui, je suis une récidiviste, mais vous savez, je ne fais jamais les choses que quand j'ai du plaisir à les faire. Et si je suis revenue, c'est que j'aimais venir à Dublin, qui est un très bon public, un public sympathique, qui est là pour le plaisir, et ça se sent, ça s'éprouve. Et je suis venue il y a 12 ans, je suis revenue il y a 4 ans, et me voilà sur les choses touchant à la nourriture, qui m'intéressent beaucoup, parce que j'ai écrit quelques textes là-dessus. C'était même d'une
certaine manière.
Ça fait
40 ans que ça dure, ça,
oui,
cette passion.
Ça
là, vous plantez, vous posez votre encrier dans cette encre-là, justement, votre plume dans cette encre-là, ce rapport du corps, de la nourriture.
Ça a commencé il y a 40 ans.
Très exactement.
Avec ma thèse que j'ai soutenue avec Gilles Deleuze, qui s'appelle Le corps à corps culinaire. Et au fond, ça a été ça le début d'un long voyage, d'un long périple qui n'est pas fini, autour du corps.
Si Dublin avait un goût, ça serait lequel pour vous, Noël Châtelet?
fish and chips, peut-être. Oui. Quelque chose où il y a du poisson, en tout cas.
La friture.
Une friture, mais accompagnée d'une sauce un peu sucrée. Je sens comme ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment manger des vraies nourritures, mais qui aiment bien aussi la douceur qui va avec. C'est pour ça qu'ils sont si aimables quand ils viennent nous écouter.
Alors ça dit quelque chose aussi, ce choix, de ce qu'est la nourriture pour l'identité, et même l'identité d'un peuple, peut-être. Absolument. Vous n'avez pas choisi par hasard ce plat-là qui vient du profond de leur histoire.
Mais oui, tout à fait. Je pense que chaque peuple, chaque culture a ses mets. Et c'est à travers de ces mets qu'il se reconnaît d'une certaine manière. C'est le pays au sens le plus large du mot, c'est-à-dire c'est le pays au sens géographique, mais c'est le pays au sens de mon pays, ma vie, quoi. Je crois beaucoup, moi, à cette identification des peuples avec leur nourriture, parce que ça les renvoie à tout un passé, pas seulement à des manières de table, mais aussi à des histoires éprouvées personnellement dans leur corps. Toujours ce corps qui m'intéresse dans leur corps, parce que je pense qu'à travers leur nourriture, ils déclinent à l'infini et pour toujours les premières impressions de la vie. Et peut-être y avait-il dans le lait des femmes de Dublin quelque chose qui appelait le fish and chip avec une sauce un peu sucrée.
Et si ça a à voir avec le corps, ça a souvent à voir aussi avec le cœur, puisque vous le rappeliez tout à l'heure dans une conférence du matin, après le petit déjeuner, que souvent, le premier réflexe, le premier désir d'un migrant, de quelqu'un qui n'est plus, de quelqu'un qui est parti de son pays, et de retrouver les gestes, justement, autour de la table, qui ont à voir avec les réminiscences, ces saveurs qui étaient celles de leur territoire, de l'enfance, peut-être.
L'enfance, tout à fait. Et c'est l'enfance qui nous construit comme adultes. Et jamais on oublie cette enfance. Je pense qu'elle est fondatrice et fondamentale. Et on la cherche toujours comme une sorte de paradis perdu. Parfois, on la retrouve. Et très souvent à travers la nourriture. Très souvent à travers la nourriture. Moi, je me souviens que pour mon anniversaire, je demandais toujours à ma mère le même gâteau au chocolat. Toujours. Depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, quand je savais demander un gâteau au chocolat. Et ce gâteau au chocolat, il s'est associé à elle, à mon rapport à elle, etc. Et je crois qu'il en est de même pour tout le monde. On a notre mets fétiche, on a notre goût fétiche qui nous renvoie à ce qu'il y a de plus profond en nous, parfois oublié, mais aussi parfois même inconscient, mais qui est là en permanence comme une espèce de plante enfoncée dans la terre, vous voyez, qui est prête à chaque printemps à refleurir.
Et donc là, peut-être peut apparaître aussi les mots que l'on met justement sur ces mets plus ou moins délicats, puisque vous évoquiez à l'instant, Noël Châtelet, le fish and chip. Bon, ceci dit, je suis peut-être méchant avec ce plat national identifié à ce prix.
Je le trouve très dur, quand même.
Donc
tout
ici,
le monde aime le fish and chips.
Nécessairement, oui. Effectivement, ici, en tout cas. Et ces mots, il faut les trouver, il faut les poser, il faut les peser. Cette alchimie, elle est particulière aussi. C'était une belle idée que de consacrer cette 17e édition de ce festival, de ces rencontres littéraires franco-irlandaises, à la littérature quand elle se mêle à la nourriture.
Tout à fait, mots, mets, on n'est pas loin. Hein. Les mots des mets sont encore des mets. Et quand il m'arrive d'écrire sur la nourriture ou par rapport au texte que je vais lire tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a de la gourmandise aussi. Pour moi, dans l'écriture d'un texte, il y a peut-être, j'espère, de la gourmandise aussi à les recevoir. Tout à fait.
Et imaginez qu'on va, nous, lecteurs, les savourer.
Mais je l'espère. Avec qu'est-ce que vous allez prendre avec c'est l'heure du thé, hein, avec ces petites nouvelles gâteaux.
Un thé, oui, ça m'ira bien.
N'est-ce pas, moi aussi. Je vais en prendre un tout de suite, d'ailleurs.
Et nous, à vous écouter.
Il fait froid. froid. Un froid qui depuis longtemps a dénudé les arbres, rasé l'herbe des champs alentours sur lesquels tombe un soleil blanc. Dans la terre durcie, une énorme entaille a été creusée. C'est là qu'ils sont, dans cette entaille. Une poignée d'hommes serrés dans leurs uniformes, le col relevé sur la nuque, le képi baissé sur le front. Ils mangent. Ils mangent debout, comme des chevaux. Personne ne regarde personne. Personne ne parle à personne. Chaque soldat est concentré sur son casse-croûte, sur le morceau de pain, la soupe tiède dans la gamelle. C'est trop important. Le goût du pain, la tiédeur de la soupe. Il mange avec gravité. Pas un sourire sur ses visages à peine plus clairs que la terre sur laquelle il se détache. Seul, à droite, l'un des soldats esquisse une sorte de contentement. Il a fini son pain, il a vidé sa gamelle, son regard rêve. À qui, à quoi rêve-t-il? À quel doux visage de paix laissé là-bas?
Voilà, on y est cette fois, on passe à la partie protocolaire. La partie protocolaire.
La partie protocolaire d'un festival passe par la résidence de l'ambassadeur de France, ici dans un quartier très huppé de Dublin. Ouais. On est sous la bannière française, d'ailleurs, et européenne. Il y a une petite pluie qui s'invite, des lumières qui sont magnifiques, tout est un peu féerique, après tout, une journée est jolie. C'est l'heure de l'apéro.
Oui, l'apéro, et puis... L'apéro et puis peut-être le moment où on va pouvoir remercier les gens qui sont venus, quoi. Donc la France invite. Et ça, c'est vraiment un moment très généreux. On remercie l'ambassadeur pour ça. Et on va voir comment ça se passe. C'est une nouvelle aventure.
Ah. Monsieur l'ambassadeur de France.
Bonsoir. Votre Excellence.
Bonsoir.
Merci. Comment allez-vous?
Bienvenue.
Bien.
Enchanté.
Il paraît qu'on va dîner chez vous en compagnie d'un chef français installé depuis plus de 10 ans, je crois, presque 15 ans.
Mais c'est un chef français, premièrement, très talentueux, deuxièmement, qui s'est installé en province irlandaise, et il se renouvelle, et chaque année, il se renouvelle, et nous avons conclu un accord avec lui, parce que chaque année, c'est pour lui, en fait, une occasion de célébrer la littérature, et il nous fait à chaque fois découvrir des choses nouvelles. Alors, aujourd'hui, célébrer des mots et des mets, si ça se fait pas en famille, si nous sommes pas tous une famille, et si c'est pas un plaisir à partager, mon avis, qu'est-ce que c'est?
Frédéric Roser, vous allez, puisque vous êtes un peu ici à la maison, chez votre ambassadeur, vous êtes l'attaché culturel de l'ambassade de France à Dublin, vous allez m'indiquer le chemin des cuisines, où je vais pouvoir rencontrer ce chef français dans tout
Dublin, vous parlez.
Dans tout Dublin, me parle.
Absolument, je vais vous accompagner, suivez-moi.
Je prends un petit four en route.
Oui.
Et ça, c'est quoi, ça?
Ça, c'est cheese bread, pain au fromage, une spécialité du Brésil.
C'est délicieux.
Le Brésil à Dublin, rien de mieux.
Peut-être un petit mot sur la maison qui nous accueille, qui est une des plus belles de ce quartier.
Avoir une des plus belles d'Irlande, dit-on. Une résidence qui a été construite par un Irlandais qui s'était expatrié aux États-Unis et qui l'avait construite et qui l'utilisait principalement pour s'amuser, pour y donner des réceptions. Vous voulez qu'on descende dans les entrailles, dans le ventre de la villa?
Je vous suis.
Bonjour.
La radio, journaliste qui enquête.
On arrive, Aymar Gourdet, au moment du... On arrive au moment du coup de feu.
Ah, ben là, ça commence, là. On est parti, ça y est. On est en plein concentré dedans, là.
Moi, c'est Aymar Gourdet, vous qu'on appelle le skinny chief ici, le chef. Alors comment traduirait ça, le chef maigre?
Alors, c'est assez difficile en fait d'avoir la traduction exacte. Disons le skinny chef, c'est vraiment un terme british. Hein, donc, en fait, le skinny chef, ça veut dire plus ou moins le chef qui n'a pas pris trop de poids, donc qui mange très bien, de la bonne nourriture et des produits très sains.
Oui, alors toute une philosophie derrière ça.
Tout à fait. En fait, la philosophie, elle est assez simple, c'est que on dit en anglais never trust a skinny chef. Donc, it's a big défi. Hein.
N'ayez jamais confiance aux cuisiniers maigres.
Tout à fait, voilà. Donc,
Il faut dire que la première chose, alors vous arrivez ici au milieu d'un festival littéraire qui met au centre la gastronomie, au centre la nourriture. Et vous êtes ici dans une capitale qui n'est pas associée jusqu'à la grande cuisine, c'est le moins qu'on puisse dire. Fish and chips, odeur de frites à chaque coin de rue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Alors, disons qu'il y a à peu près 15 ans, quand je suis arrivé à la capitale de Dublin, en fait, c'était très rare de trouver des bons produits. La cuisine était très, très typique, en fait, hein, très, très anglaise, avec les fish and chips, les burgers. Donc, en fait, il a fallu un peu changer le palais des gens. Et petit à petit, après les années, les gens ont commencé à découvrir les produits, ils se sont un peu ouverts en fait sur les produits qui venaient de l'extérieur de l'Irlande et aussi les produits qu'eux avaient dans leur jardin, dans leur forêt et tout ça.
Au point que cher skinny chef, Aymar Gourdet, au point que la concurrence est peut-être même rude, ça devient une petite capitale gastronomique. Et aujourd'hui, Dublin est plein de saveurs, de parfums, d'étonnants voyages culinaires possibles.
Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans. En fait, on avait deux restaurants français à Dublin. La cuisine exotique à Dublin, c'était des pastas, c'était des pâtes, hein, c'était des pizzas, c'était voilà. Quand on était français, quand on arrivait ici, il fallait amener le foie gras dans la valise, hein, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, c'était un peu comme ça. Et maintenant, non, on trouve beaucoup de cuisine ethnique, ce qu'on appelle donc un mélange de culture, un mélange de goût, un mélange de saveur.
Et vous tripotez quoi en ce moment ? Vous effeuillez du...
Alors là, c'est le carpaccio de Topinambour. Donc, c'est assez délicat parce que bon, Topinambour, il est assez délicat à travailler. Mais ça, je le marie avec la coquille Saint-Jacques, en fait. Parce que je trouve que le Topinambour, il a un petit goût fumé, en fait, un légume un peu fumé. Et puis, il y a aussi un légume oublié qui donne un petit arrière-goût au coquille Saint-Jacques. Donc, ça va se marier très bien. Puis, en dessous, on a un petit tartare de maquereau de ligne.
Bon, voilà. Bah, je vous laisse faire parce que sinon, ils vont m'accuser de retarder comme ça le mouvement parce que tout est chronométré.
C'est ça. Alors, régalez-vous. À tout à l'heure. C'est parti.
Dès que l'ambassadeur commence à faire son discours, je descends. Je vous dis, on peut commencer à envoyer. Comme ça, quand il a fini son discours, on a peut-être fini d'envoyer tout. Et ça peut être genre super classe.
Et vous avez noté, le discours, pas plus de 3 minutes.
Il fait une citation de Jean Monnet, donc excusez-moi, mais je pense que ça va durer quelques temps.
Ok, c'est bon, chef.
Merci.
Ah, ça commence à s'impatienter un peu là-haut. Hein.
Tierra de Alianza.
Il y aurait trop de gens à remercier à la fin de cette étape littéraire et culinaire à Dublin, alors chargeons Philippe Miou, le délégué général des 5 alliances françaises d'Irlande, de saluer ses équipes de notre part et les remercier. Ces deux balades irlandaises de ce 6e week-end estival en terre d'Alliance sont réécoutables et téléchargeable sur notre site internet franceinter.fr, un site qui contient aussi, au-delà des liens discographiques et bibliographiques, un supplément multimédia confectionné par notre community manager, Léa Minot, assistée de Rachel Chiche. N'hésitez pas à nous tweeter, hashtag Terre d'Alliance, et à rejoindre notre page Facebook estampillée aussi ainsi la semaine prochaine. C'est à Madagascar que nous prendrons la poudre d'escampette. Alors ne nous faites pas faux bon. Programmation musicale, Thierry Dupin, spécial 5 Sahara, Romain Couturier à la discothèque centrale. Mixage, Tristan Gratalon, une série réalisée par Bertrand Chaumeton en partenariat avec la Fondation Alliance Française.
Maintenant, vraiment, je dois dire merci à vous tous, d'abord public, fidèle. On vient de vivre une 17e édition absolument remarquable. Il faut aussi remercier nos deux interprètes qui sont ici. Merci. Merci à la cocotte. Alexandre Véron, qui est là, qui nous a accompagnés aussi et qui se représente le service public avec la radio France Inter, qui est dans son coin, qui travaille avec, je ne dis pas le nom du micro, je vous le dirai après, off record.
C'est l'arrivée du prépuce rouge.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis bien sûr, c'est le moment où je vous demande d'applaudir à nouveau une très grande dame, Christine Well.